profession philosophe. Mais être philosophe, est-ce un métier? Est-ce une vocation? Comment se fabrique un concept? Et quel est le rôle du philosophe dans la cité? Cette semaine, je vous propose de découvrir quatre philosophes, c'est-à-dire aussi quatre pratiques différentes de la philosophie, en partant de leurs travaux et de leurs expériences. Mon invité aujourd'hui est professeur de philosophie à l'Université Paris 8. En 2006, elle publie « La matrice de la race, généalogie sexuelle et coloniale de la nation française » aux éditions de La Découverte. En 2008, paraît « Sexe, genre et sexualité, introduction à la théorie féministe » aux éditions PUF. Et en 2017, « Se défendre, une philosophie de la violence » toujours aux éditions de La Découverte. Alors race, féminisme, violence et surtout philosophie, c'est le programme du jour en compagnie d'Elsa Dorlin.
Bonjour mesdemoiselles. Contrôle de police. Vous faites quoi là?
On attend le bus.
Quoi?
On attend le bus.
Vous attendez le bus là? C'est à toi ça? T'as quel âge toi?
15.
15 ans? Et à 15 ans tu fumes? Ça sent le shit ça? Hein? Bon il est où? Tu l'as mis où?
Vous avez pas le droit de m'offrir.
Je fais ce que je veux. Tu l'as mis où?
Vous avez pas le droit de m'offrir comme ça.
Comment ça j'ai pas le droit? C'est l'état d'urgence, si je veux, je te mets un doigt dans le cul, t'as compris?
Mais c'est pas normal.
Ferme ta gueule, toi.
Vous avez pas le droit de faire ça.
Tu veux faire 48 heures?
Vous avez pas le droit de faire ça, vous avez pas le droit.
Eh, hey, c'est bon, c'est bon.
Ça va, je gère. T'as trouvé ça où? Tu veux que je continue à te palper ou pas? Tu fais quoi, là?
Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça.
Arrête de filmer.
Non.
T'es contente, là? Petite conne, va. Allez, dégagez, là. Toi, arrête de fumer, c'est mauvais pour la santé. Hein?
Bonjour, Elsa Dorlin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin depuis chez vous. Est-ce que vous allez bien depuis le confinement?
Oui, je vais bien. Oui.
Bon, je suis ravie de l'entendre. On vient d'entendre un extrait justement du film Les Misérables, le film de Lajli. Un contrôle de police, la fille de 15 ans fume un joint, c'est illégal. Il la contrôle, il lui parle comme un chien. La suite de l'extrait montre que la violence s'accroît du côté du policier qui va finir par jeter à terre le téléphone portable avec lequel elle était en train de le filmer. Et ce sont ce type de contrôle de police et les violences qui peuvent s'en suivre que vous vouliez aborder à l'issue du confinement de plusieurs semaines que nous venons de vivre, Elsa Dorlin.
Oui, puisqu'à la question sur quel a été le fait marquant de cette période de confinement qui a été extrêmement éprouvante pour tout le monde, je voulais, moi, en tout cas, mettre en exergue la question des violences policières et des contrôles de police, la question des attestations, de l'obligation de les présenter et tout ce qui a été quand même aussi une chronique de l'arbitraire policier. On en a eu nombre d'exemples.
Je précise qu'au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes le mercredi 3 juin et nous avons dans la tête la mort de George Floyd et de tout ce qui a pu suivre comme manifestation. Et hier soir d'ailleurs, la manifestation autour du palais de justice pour Adama Traoré. C'est le climat dans lequel nous enregistrons cette émission et j'imagine que ce n'est pas sans lien avec ce que vous vouliez dire. Si ce problème-là vous préoccupe en particulier, c'est que vous avez quelque chose à en dire en particulier, j'imagine.
Oui, là, c'est il est clair que le meurtre de Floyd rend les choses d'autant plus tragiques et redondantes, en fait, enfin, de vouloir discuter de cette question de la violence policière et là le rassemblement pour que justice soit rendue à Adama Traoré, évidemment, redouble de façon abyssale cet enjeu qui me semble vraiment au cœur là de la question du politique.
Et pourquoi?
C'est une façon, en fait, justement, même d'un point de vue philosophique, il y a finalement très peu de réflexion sur la question de la police, sur la fonction d'une police, par exemple, dans un état de droit, sur les réflexions sur le maintien de l'ordre, qu'est-ce que ça signifie, comment, pour qui, avec quelles pratiques, etc. Et c'est vrai que c'est pour moi une question qui, du fait des exactions policières, et là on l'entend dans l'extrait, par exemple, en quelques phrases, le policier va être très violent. Il me semble qu'en fait, d'emblée, il est très violent avec ces jeunes filles, que même sa présence est extrêmement violente. C'est-à-dire que il est là de toute façon pour matérialiser un climat qui désigne des personnes comme étant par nature contrôlables, par nature finalement presque violables. Hein. Il le dit même de façon très très claire. C'est-à-dire l'idée que, en tout cas, certaines personnes sont ciblées comme étant en permanence sous surveillance, en permanence dans une forme de criminalisation du moindre fait et geste. Et c'est cette question-là, en fait, qui me semble importante, c'est de poser celle de cette discrimination, au fond, entre des vies qui se sentent défendues par la police et celles d'autres vies qui, au contraire, ont peur face à la police et ont raison d'avoir peur, puisque la police constitue, en fait, une menace et un risque de mort.
Il est intéressant de constater que dans votre travail, je citais le livre « Se défendre » qui est paru en 2017, vous proposez une philosophie de la violence, c'est le titre, du point de vue des personnes qui doivent se défendre et qui, pour lesquelles le recours à la violence pourrait être considéré d'un certain point de vue comme légitime. Or, aujourd'hui, justement, on s'interroge sur les questions, la question de la légitimité de la violence du point de vue de la police. Est-ce que c'est une manière de changer de point de vue ou est-ce que la question est la même ?
Non, en fait, je pense que le fait de se situer depuis la perspective ou au cœur des expériences vécues des personnes, des groupes minorisés qui ont été historiquement en fait la cible d'une violence institutionnelle permet de comprendre en fait que justement la question de la légitimité du recours à la violence, cette question vraiment de la violence légitime, elle a une histoire assez sombre et complexe et que par exemple finalement cette légitimité elle est aussi construite sur l'idée que des personnes sont toujours a priori légitimes à se défendre ou toujours déjà légitimées à recourir à la violence à quelque degré que ce soit. Et on le voit notamment...
Et qui sont ces personnes ?
Alors, on le voit notamment là, de façon flagrante, avec un certain nombre de pratiques policières et avec la question, par exemple, de la proportionnalité, enfin, de la proportion, hein, de proportionnalité entre l'usage de d'armement ou de pratiques de maintien de l'ordre face à ce qui constituerait en fait une menace justement à l'ordre. Si vous envoyez face à une manifestation des patrouilles en masse, surarmées, même dignes, enfin étant armées avec des armes militaire et que lors de ces manifestations où il n'y a pas de menace directe hein, sur des personnes, même s'il peut y avoir des dégradations matérielles, les gens qui sont là pour exprimer leur point de vue risquent de perdre un œil, une main ou la vie. On voit bien que là, si vous voulez, on ne peut plus. Enfin, la question de la légitimité se pose en permanence de façon tragique, de la même façon que un individu, quel que soit ce qu'il aurait commis. Dans un quartier populaire, je pense évidemment à Adama Traoré, le fait juste de subir pour la énième fois dans la journée ou dans la semaine un contrôle d'identité quand vous êtes français, que vous vivez en Seine-Saint-Denis ou ailleurs, et que c'est en permanence en fait une technique d'intimidation, et qu'effectivement ça peut vous donner envie de fuir les patrouilles et que vous perdez la vie suite à une interpellation. Il y a quelque chose, si vous voulez, qui est voilà, de l'ordre de l'urgence à penser sur que fait-on de cette légitimité. On ne peut plus justifier aujourd'hui la police comme incarnant, si vous voulez, l'usage de la violence légitime parce que elle est de façon constitutive en fait fondée sur une sorte de blanc-seing ou de droit constamment octroyé à violenter outre mesure, en fait, des citoyens qui visiblement sont des citoyens qui ne sont pas considérés pleinement dans leurs droits, en fait.
Mais ça, c'est passionnant parce que la question se pose de savoir si on s'arrête sur le terme de légitimité. Est-ce qu'il faut complètement renoncer à ce terme dans la mesure où quand on l'emploie, elle est de toute façon galvaudée? Ou est-ce qu'il faut considérer que la légitimité n'est pas forcément là où on pense qu'elle se trouve? Parce que dans votre livre, vous montrez bien justement que... Enfin, vous essayez d'évacuer, il me semble, la question de la légitimité ou l'illégitimité du recours à la violence, en tout cas telle qu'elle est énoncée dans la tradition de philosophie politique, au profit d'une exploration des manières dont les dominés ont su détourner leur corps pour riposter. Et que cette violence que l'on jugerait illégitime parce que peut-être illégale est en fait ce qui devient légitime. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce terme même de légitimité ?
Ben oui, parce que effectivement, soit on pense la légitimité évidemment dans le cadre du juste et de l'injuste, et donc sur des principes relativement, sur des principes. Soit on le pense dans le cadre d'une histoire juridico-politique, et dans ce cadre-là, effectivement, il faut faire le procès dans une certaine mesure du débat sur la légitimité de la violence, enfin de la violence légitime. Elle est construite sur une histoire juridique et politique qui a donné à une certaine catégorie de la population une légitimité a priori à se défendre, alors qu'elle a au contraire rendu indéfendable une autre partie de la population ou des groupes sociaux en estimant que il fallait désarmer justement ces personnes et qui ne seraient jamais légitimes à se défendre. Donc, et c'est pour ça que moi, dans ma perspective, j'ai effectivement évacué la question de la légitimité, ou en tout cas, je l'ai dans une certaine mesure mise en procès à l'aune d'une archive historique. Et j'ai essayé de penser au fond la violence un peu à l'abri en fait de tout ce débat sur est-ce que le recours à la violence c'est bien, c'est mal, est-ce qu'on a raison, à quel moment, etc. J'ai essayé d'évacuer en fait ce cadre d'analyse pour essayer de penser la violence finalement comme la dernière ressource vitale qui subsistait quand on n'avait plus rien et qu'on était de toute façon plus rien, qu'on n'était même pas un sujet de droit, justement reconnu dans sa légitimité à se défendre ou à demander justice. Et donc, à partir de là, effectivement, dans des actes, dans des pratiques d'autodéfense, on voit aussi que pour se sauver ou pour sauver sa vie, la violence est c'est-à-dire presque le muscle, et tout ce qui reste.
J'ai 85 ans. Je suis ceinture noire de judo, ceinture noire d'aïkido et ceinture noire de kung-fu. Et je suis également professeure de yoga. Et j'ai eu ma ceinture noire de judo à 68 ans, puisqu'il faut 5 ans d'études avant d'être ceinture noire.
Mais surtout de la vigueur, hein.
Les cours commencent d'abord par un cours de gymnastique pour se mettre en train. Et ensuite, je leur enseigne la self-défense. La self-défense sont des mouvements que j'ai puisé un peu dans le kung-fu, dans le judo et dans l'aïkido. N'est-ce pas? Parce que j'ai des personnes très âgées, là.
J'ai 66 ans et demi.
J'ai 71 ans.
J'ai 75 ans.
La self-défense est utile à tout le monde, parce que on peut être attaqué à n'importe quel âge. Donc il faut pouvoir se défendre.
Là. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, profession philosophe. Aujourd'hui, en compagnie d'Elsa Dorlin, vous venez d'entendre un portrait de Jeanne Lieberman, une femme de 85 ans qui compte 3 ceintures noires à son actif en judo, kung-fu et aïkido. Elsa Dorlin, vous dites que vous voulez philosopher à partir du muscle plutôt que de la loi. Est-ce que vous pratiquez un sport de combat?
Je pratique pas de sport de combat, mais des techniques de combat, oui.
Ouais. Lesquelles?
Pas dans le cadre d'un sport, par exemple. Des techniques de self-défense, de combat rapproché, qui sont issues de plusieurs traditions, à la fois celle du kung-fu, du jiu-jitsu et puis le krav maga, mais dans des versions qui m'intéressent, voilà. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire du krav maga aussi.
Et c'est pas sans lien avec la discussion que nous venons d'avoir, justement. Est-ce que c'est une manière de, de mettre en pratique ce qui aurait pu rester d'un ordre conceptuel? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que pour vous, la défense, vous écrivez, vous se défendre, vous en appelez à cette nécessité de se défendre quand on est une femme, quand on est quelqu'un considéré comme une minorité, se défendre par le corps, et vous êtes philosophe. Est-ce que c'est le même mouvement? Est-ce que c'est un désaveu de la philosophie? C'est complémentaire? Comment vous le pensez?
En fait, je pourrais même pas distinguer, si vous voulez, une sorte de démarche qui aurait été, par exemple, de penser les choses et puis après de se dire mais tiens, c'est il faut aussi les habiter d'une certaine mesure, ou au contraire, ma démarche n'a pas vraiment été d'abord, par exemple, une pratique, on va dire physique, corporelle, et puis ensuite une réflexion philosophique. Je crois que en fait les choses se sont tellement entremêlées depuis toujours, je ne peux pas les distinguer en fait. Voilà, je pense presque avec le muscle et ma pensée, enfin voilà, se matérialise, je sais pas.
Ça veut dire que quand vous écrivez de la philosophie, vous vous défendez aussi?
Oui, mais ça, c'est...
Contre quoi?
C'est très juste, c'est une forme d'autodéfense. C'est très intéressant parce que j'ai beaucoup, justement, je me suis beaucoup intéressée au Black Panther Party for Self-Defense. Et qui a évidemment, dont on connaît l'image avec le fusil, l'armement et la lutte radicale contre l'État raciste, mais qui avait aussi mené une grande réflexion sur la pratique du kung-fu et sur la philosophie, puisque par exemple c'était de l'ordre aussi de l'autodéfense, non seulement d'avoir des formes d'ascèse martiale, donc d'entraînement, puisque effectivement on pourrait considérer que les pratiques de combat ne sont pas spécialement pour être prêtes à se défendre contre un agresseur. Enfin, là-dessus, il y aurait beaucoup à dire, mais surtout dans une forme d'ascèse, finalement. Mais que la lecture de la philosophie, la pratique de la philosophie, de la même façon, participe d'une ascèse de soi, en fait. Enfin, d'une éthique de soi, c'est une façon de se former. Et dans les deux cas, en fait, c'est une formation, c'est une façon d'advenir.
Et contre quoi est-ce que la philosophie vous permet de vous défendre ?
Contre la bêtise, peut-être, si je voulais reprendre ouais. Deleuze. Mais contre plein de choses, je crois que... Là, il y a plusieurs dimensions. C'est se défendre... Il y a à la fois, une forme de défense contre une pensée trop facile, trop automatique, trop imposante. Voilà, donc peut-être... Et dans laquelle il y a la bêtise, où il y a des formes de malhonnêteté intellectuelle. La philosophie, pour ça, a une puissance critique qui restitue de la complexité, qui oblige à assimiler en fait d'autres points de vue, d'autres façons de voir, une culture qui, de toute façon, permet de à la fois des déplacements et de se tenir à distance en fait de cadres pensés qui nous empêchent de voir. Ça me semble important. Il y a aussi des choses qu'on a beaucoup laissées finalement à la sociologie qui est aussi une philosophie bourdieusienne, mais sur la question de l'auto-analyse, je pense que en tout cas la philosophie est pour moi une ressource sur cette question du positionnement, sur la question de l'expérience vécue et de la façon dont on peut la réfléchir et en faire précisément une arme pour penser le monde tel qu'il est, ou le monde dans lequel nous sommes en tout cas.
Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie ?
Alors il y avait très peu de livres de philosophie chez moi quand j'étais enfant, je veux dire, mais il y avait quand même les œuvres complètes de Marx aux éditions sociales, et ça c'était voilà. Et puis il y avait Les mots et les choses de Foucault, mais pour être parfaitement honnête, quand j'ai ouvert ça adolescente, j'ai rien compris, donc voilà. Je peux pas. Donc ensuite la philosophie, je crois que ça a vraiment été, c'est pas du tout ni une rencontre familiale ni une question de culture familiale. Je l'ai rencontrée comme la majorité des personnes en terminale, je crois.
Et à quel moment vous êtes-vous dit que vous alliez en faire votre métier, vous allez devenir enseignante en philosophie? Ou est-ce que ça s'est fait comme ça, que c'est pas vraiment un choix?
Oui. Je pensais enseigner, vous aviez raison tout à l'heure dans la question que vous posiez quand même, je pensais enseigner le sport au début quand même. Parce que Et puis, je pense que j'ai aimé la philosophie dès mon premier cours de philosophie en terminale. Je crois que ça a été une rencontre, un choc amoureux, quoi, vraiment, avec la philosophie. Hein. Et puis, pendant très longtemps, j'ai cru que je pourrais pas être professeure de philosophie parce que je me voyais pas capable de ça ou légitime. Donc, c'est venu plus tard, voilà.
Si on accepte de penser non pas dans les mots théoriques du savoir, mais dans les mots pratiques de la conviction, de l'espérance, et ainsi de suite, on se rend compte que, au-delà des polémiques stériles entre métaphysiciens et incroyants, il y a une place qui est le domaine de la croyance, et c'est cette place que Kant va légitimer.
Est-ce que vous reconnaissez cette voix, Elsa Dorlin ?
Évidemment.
C'était qui ?
Pierre-François Moreau.
C'était votre professeur ?
Oui, c'est une vraie rencontre. Il a été mon directeur de thèse. Et c'est lorsque j'ai décidé, après mon baccalauréat, de partir en fac de philosophie. J'ai fait un DEUG, licence, etc. Et puis arrivé au DEA, j'ai tenté quelque temps l'agrégation, mais sans succès. Enfin, voilà. Mais Pierre-François Moreau a été une des rares personnes, parce que mon DEA a été publié assez rapidement. Et je lui ai dit que je crois que je rêverais de faire de la recherche. Enfin, j'avais envie vraiment de faire de la recherche en philosophie. Et je lui ai dit, mais j'ai raté l'agrégation, je suis pas normalienne. Et il m'a dit, mais peu importe, enfin voilà, je veux vous diriger en thèse. Et il a une place très très importante pour moi, d'abord parce que c'est un professeur qui m'a immensément marquée, que Spinoza, à travers lui évidemment, fait partie de cette référence cachée, comme dirait Foucault, mais qu'on garde toujours avec soi, et que Pierre-François Moreau, comme figure de philosophes, d'universitaires et surtout de oui de comment on pourrait dire de celui qui vous accompagne quoi et qui vous ouvre aussi des portes et qui vous dit si tu veux aller sur ce chemin vas-y vraiment fais le bien et ça a été un tournant pour moi grâce à lui.
Et c'est ça un bon professeur, c'est celui qui vous accompagne et qui vous ouvre les portes. Est-ce que vous essayez de faire en cours vous-même?
Oui, là c'était dans une relation. Alors après, c'est après la direction de thèse, c'est encore une autre question. Je pense qu'il y a aussi probablement que la relation pédagogique, on va dire en cours. Je dirais que la première façon, enfin, en tout cas, je pense que moi, ce qui me semble important d'abord, c'est peut-être de pas forcément de enfin d'accueillir d'abord mais aussi de mettre en question de dérouter un peu les personnes qui arrivent comme ça juste pour essayer de ne pas leur enseigner de l'attendu ou de leur enseigner quelque chose qui serait trop balisé justement mais essayer de les emmener un peu sur des chemins de traverse et leur dire que c'est possible aussi. Enfin, donc il y a aussi cette, je pense que dans l'enseignement de la philosophie, ce qui me semble fondamental, c'est aussi le rôle que l'on peut avoir dans le fait d'ouvrir des horizons, d'ouvrir des bibliothèques qui n'ont pas forcément droit de citer, par exemple, dans des cursus pas trop classiques.
Et comment vous définissez la philosophie? Est-ce que vous en avez une définition quand vous en parlez à vos étudiants?
Quand j'en parle à mes étudiants, ils osent plus trop me poser la question parce qu'elle est trop,
elle est redoutable.
Voilà, elle est redoutable
ou inutile hein, d'ailleurs.
Voilà, ou je sais pas, ou peut-être bon. Mais non, cette question, elle m'évoque surtout la question que me posent mes enfants, par exemple, lorsqu'ils souhaitent savoir ce que je fais. Et, oui. Et donc là, c'est plutôt cette question.
Et comment vous leur répondez?
Alors j'essaie de pas trop botter en touche parce qu'il faut bien que je leur apporte de la matière et je crois que j'insiste sur l'idée d'interroger le monde de les évidences et de se déplacer et de construire aussi aussi une arme en fait se construire des armes.
I think in fact that we do not have to identify with others.
Je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'identifier à l'autre.
Suffering is insupportable.
Pour reconnaître que leur souffrance est insupportable et la ressentir comme telle.
It is for most people the case that they feel for those who are like them. Right? I mean, I came from
ils ont le sentiment que ces autres sont comme eux. Vous savez, je viens d'une famille juive et on ressentait toujours et on partageait la souffrance du peuple juif.
I understood that we could also feel for the suffering of the non-Jews.
Longtemps, parce qu'on pouvait aussi souffrir pour la souffrance des non-Juifs. Mon père n'en était pas si certain.
But even in the early days of feminism, we were only supposed to care for the suffering of women.
Mais même au premier jour du féminisme, on était toujours censé se préoccuper de la souffrance des femmes. Mais est-ce que ça voulait dire que on s'en fichait de la souffrance de certains hommes victimes de racisme, victimes de violence même? Donc je pense que il faut interrompre ce processus d'identification. On ne doit pas considérer comme précieux ou digne d'importance uniquement la souffrance de ceux qui nous ressemblent, qui sont comme nous. Non. Il faut accepter ces différences.
La voix de Judith Butler sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, c'était un extrait de l'émission Matière à penser avec Frédéric Worms, diffusé en 2018, le 14 mai 2018. Et vous la remerciez à la fin de votre ouvrage Se défendre, Elsa Dorlin, pour la confiance, l'attention et la bienveillance qu'elle vous a témoignée au cours de ce travail. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous ?
Oui, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. C'est là aussi, c'est son... Ce qui est marquant, je pense, je parlais de Pierre-François Moreau, mais pour Judith Butler, c'est le cas également. C'est-à-dire que c'est à la fois une pensée extrêmement puissante, inspirante, et d'ailleurs qui laisse aussi la place à de vraies discussions, des vrais désaccords, et dans une forme comme ça, effectivement, de bienveillance et en même temps, voilà, de tenue quoi de sur le désaccord mais qui humainement et même d'un point de vue éthique, quoi, son, en tout cas, Jude Butler est de ce point de vue-là quelqu'un de absolument admirable, de fidélité, de considération, en fait. Voilà, de considération. Et c'est suffisamment rare parce que, quand même, on est confronté et aussi sur des positions où tout ça représente des formes d'élite intellectuelle. Et c'est toujours frappant quand des personnes déjouent en fait cette suffisance que peut donner en fait la certitude qu'on est là parce qu'on est mieux que les autres ou qu'on a mieux travaillé ou que...
Ça, c'est un trait qu'on retrouve dans d'autres domaines que ceux des intellectuels hein, en même temps.
Complètement. Non, bien sûr, c'est le propre de toute élite, hein, on est bien d'accord, mais je trouve que voilà, il y a cette Judith Butler, elle est impliquée dans cette voilà, elle a les mains dans le politique, elle est philosophe, elle, par exemple, le fait d'être critiquée comme militante, c'est quelque chose qui l'a fait sourire parce que c'est cette implication dans les luttes depuis des décennies et aussi ce qui la rend si forte intellectuellement.
Et vous, vous définissez, vous vous présentez plutôt comme philosophe ou comme militante, ou les deux ?
Là aussi, vous savez, je vous apprends rien en disant que, en tout cas là, pour le coup, dans le milieu universitaire français, et quand même en particulier dans le milieu de la philosophie, le fait que, par exemple, on dise que je suis militante, ou d'autres, hein, enfin, on ne le dit pas qu'à moi, mais ce mot-là est une insulte, évidemment, une façon de délégitimer mon travail ou une certaine pensée, une certaine production, pour plein de raisons, d'ailleurs. Enfin, mais quand même, c'est un stigmate. Enfin, il faut le porter. C'est communément compris comme quelque chose qui serait contradictoire avec le statut de philosophe ou la philosophie elle-même. Donc c'est plutôt de l'ordre d'un stigmate. Moi, je me qualifie même pas. Je sais même pas. D'abord, vous voyez, philosophe ou militante, je voudrais plutôt essayer de penser en dehors de cette alternative, par exemple, puisque c'est bizarre de devoir choisir ou de dire l'un et l'autre. Enfin, il y a quelque chose dans lequel je me reconnais pas. Si on pense la question du militant, enfin, être militant, ça veut dire être positionné politiquement. Je crois alors que tout le monde est militant, au sens tout le monde est positionné politiquement. Et je pense que dire, par exemple, que l'on est neutre ou que nous on ne fait pas de politique ou que nous on fait que de la philosophie, par exemple, c'est encore de la politique. C'est encore une certaine politique. Ça témoigne d'une politique, enfin, d'une conception de ce que doit être le savoir. De qu'est-ce qu'un sujet de savoir. C'est une certaine définition, par exemple, de ce qu'est l'objectivité. Est-ce que l'objectivité, c'est être neutre et en dehors de la société, ou au-dessus, ou à côté, ou est-ce que quand on ferme le bureau de son cabinet de philosophie, finalement, on arrive à mieux penser que quand on est dans le monde. Enfin, tout ça, ce sont des questions, évidemment, qui sont depuis longtemps extrêmement discutées. Mais là, d'un point de vue contemporain, la philosophie aurait besoin de revenir sérieusement sur ces enjeux, parce que finalement, je pense que quand même le fait de dire d'où on parle, depuis quelle perspective et avec quelle bibliothèque, par exemple, c'est au contraire, on produit de la meilleure philosophie, il me semble.
Si on s'approche de votre oreille et de votre cœur, on entend ceci, Elsa Berlin.
My skin is black, my arms are long, my hair is woolly, my back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah.
Sarah. My skin is yellow. My hair is long.
Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette chanson de Nina Simone, Elsa Dorlin, qui s'appelle Four Women, qui date de 1966?
Nina Simone, mais c'est évidemment cette chanson en particulier me touche profondément parce que en quelques couplets, elle restitue l'histoire de l'esclavage et de la ségrégation et du viol systématique des femmes africaines-américaines par des maîtres, des colons, des hommes blancs, et l'histoire aussi du métissage. L'histoire de l'extrême sexualisation des femmes africaines-américaines à la peau claire. Et c'est... Il y a à la fois... Mon père... c'est une histoire, c'est une sensibilité que moi, je porte et qui probablement m'a ouvert, en fait, sur toute une culture noire de par mon père qui est d'origine guyanaise, qui est métisse. Moi, ce métissage, il reste encore quelques stigmates, mais j'ai un passing. Mais c'est très touchant pour moi, cette chanson. Ouais, très.
Vous dites stigmate?
Oui, parce qu'en fait, vous savez, c'est comment expliquer? Une des premières questions qu'on m'a toujours posée en me rencontrant depuis assez longtemps, et de quelle origine j'étais, parce que je peux avoir toutes les origines, on va dire. J'ai les cheveux crépus, la peau un peu mate, et il y a toujours cette première question qu'on pose comme ça dans un prisme en disant tu n'es plus noire, mais pas tout à fait blanche, pour paraphraser Fanon. Mmh. Mais je passe. Après, je passe. Voilà, je passe pour blanche quand même. Et puis pour plein d'autres choses. Mais ce qui fait que l'expérience du racisme, pour moi, est une expérience caractéristique, en fait, des personnes métisses claires.
Et vous l'avez senti même au sein de l'université?
Sur probablement, c'est là où les choses sont. L'expérience que j'ai est davantage une expérience de sexisme ou d'hypersexualisation, vous voyez, de prédation un peu comme ça. Je parle au sein de l'université, mais du coup, il est toujours compliqué de démêler ce qui relève d'un rapport de classe, de genre ou de race. Enfin, tout ça est de toute façon, s'entremêle et se génère.
Est-ce que ça veut dire que les questions de genre, de race, de sexe, qui sont d'ailleurs les questions sur lesquelles vous avez écrit, Elsa Dorlin, sont des domaines qui sont toujours oppressifs, des catégories qui viennent assigner et contre lesquelles, sans doute, vous devez vous défendre? Je veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais comme vous travaillez sur la défense et vous parlez de philosophie en termes d'armes, est-ce que c'est là qu'il faut trouver peut-être les causes, ou est-ce qui vous a conduit à vouloir vous défendre par la pensée, par le combat ou par autre chose?
Honnêtement, je sais pas. Je crois que quand je parle, par exemple, quand on évoque la question de la défense, par exemple, je crois que ce qui a été fondamental pour moi, c'était pas de défendre quelque chose, par exemple, ou mais c'est cette idée, probablement, de prendre corps, ou de refaire corps, vous voyez, c'est-à-dire de se réaliser, enfin de reprendre corps dans la matérialité, de faire histoire. Et ça suppose, vous voyez, la défense de soi est plus l'idée où, parce que je suis dans une forme d'assesse comme ça, où je génère de la puissance, un élan, alors j'adviens comme sujet. Donc il y avait pas, vous voyez, j'ai pas quelque chose spécialement à défendre, en fait, seulement pourrait dire, une force qui va, enfin, je sais pas, un chemin, quelque chose comme ça. Et la deuxième chose, c'est que, évidemment, c'est extrêmement, enfin, je trouve que ça mériterait d'ailleurs d'être débattu de façon vraiment sérieuse, cette idée selon laquelle est-ce qu'on ne peut penser que ce que l'on porte, ce que l'on vit, ce que l'on a vécu, et est-ce que nos déterminismes sociaux, historiques, biographiques, au fond, nous déterminent à penser, ou nous déterminent à aller vers certains objets. Je pense que c'est plus complexe que ça. Je crois que le fait que, par exemple, si je prends un exemple concret en philosophie, en me rappelant les cours que je pouvais avoir, beaucoup de choses m'intéressaient à l'université, dans les cours que j'ai reçus, les enseignements que j'ai reçus. Mais c'est vrai que quand, par exemple, il y avait un cours sur la philosophie du corps, ou la philosophie politique, par exemple, ou l'expérience, j'étais toujours extrêmement frustrée de voir à quel point c'était dématérialisé, désincarné, à quel point ça parlait d'un monde qui, vraisemblablement, ne concernait que des personnes que moi, je qui n'habitaient pas dans la même galaxie que moi, en fait. Hein. Et je dis ça, encore une fois, je pense qu'on était beaucoup à penser ça. Et donc, je crois juste que de produire une philosophie qui est plus incarnée, plus mondaine, plus complexe, plus impure, et toujours, me semble plus enrichissant, en tout cas plus éclairant. Et puis sur cette question, par exemple aussi que vous évoquiez sur l'entremêlement, on va dire des rapports de classe, de genre, de race. Moi, j'ai aussi mis un point d'honneur à travailler sur ces questions en montrant que ces questions ne sont absolument pas réservées à des minorités, en fait. Ces questions concernent la majorité. Cette question concerne toute personne, c'est-à-dire et devrait être d'ailleurs éclairée à l'aune de l'expérience vécue des personnes qui sont en position dominante.
Et c'est le débat qui se cristallise en ce moment, justement, depuis la mort de George Floyd, hein, puisqu'on voit des foules de solidarité qui s'expriment, que ce soit réellement des foules dans la rue ou sur les réseaux sociaux, où tout le monde veut exprimer une forme de solidarité. Et il y a certaines paroles qui émergent et qui disent « Mais non, les Blancs ne peuvent pas exprimer leur solidarité avec les Noirs parce que sinon ils parlent à leur place. » Et on voit qu'il y a une espèce de réassignation ici qui s'opère. Est-ce que vous le regrettez ou pas?
Alors, en fait, je comprends tout à fait le point. Je pense que c'est un débat qui est très ancien, documenté. Il y a plusieurs positions là-dessus. Ce sont des positions politiques. Il me semble que une des critiques qui est évoquée le plus massivement aujourd'hui par rapport à la convergence de nombre d'individus, de groupes, de mouvements pour demander justice et par rapport au meurtre de George Floyd et sur la question des violences policières et du racisme structurel. Une des critiques qui me semble vraiment très intéressante a été celle qui a consisté à refuser que des personnes blanches, notamment sur leurs murs dans des réseaux sociaux, publient la vidéo ou la photo de George Floyd en train d'agonir, en disant parce qu'elles étaient blanches, et de même d'ailleurs même là en l'occurrence en plus ça peut.
Débat s'est élargi depuis. Est-ce qu'il faut diffuser ou non les images de violences policières?
Exactement. Mais disons en plus parce qu'elles étaient blanches, on va dire. Qui plus est parce qu'elles étaient blanches. Parce que ce qui a été dénoncé, c'est de dire, en fait, il y a une forme de voyeurisme, vous voyez, une pulsion scopique à voir un homme noir mourir, à nous montrer d'une personne noire que, précisément, le fait qu'il est violenté par la police, et finalement, à jouir contre son gré, hein, mais quand même, ça interroge, qu'est-ce qui satisfait de dénoncer la violence policière dans cette image qui est au fond une forme de glorification du pouvoir blanc à tuer impunément un homme noir à terre qui demande et qui supplie.
Mais la fascination pour la grande violence sordide, depuis Socrate en parlait déjà. Hein. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête sur le côté de la route pour voir un accident terrible alors qu'on n'a rien à y apprendre justement?
Complètement.
Indépendamment de la question des genres et des races.
Alors, je suis complètement d'accord, mais pas indépendamment de la question des genres et des races, puisque c'est aussi historiquement construit dans des cadres d'intelligibilité qui sont marqués par la racialisation et la dimension genrée de cette question. Par exemple, c'est exactement la même chose de pouvoir évoquer une vie noire que dans des photos d'émeutes, dans des photos de lynchage par la police, ou sur une période, si vous voulez, qui est pas si ancienne que ça, des photos sur des enfants éthiopiens affamés, quoi. Ouais. Il y a quelque chose qui est quand même, vous voyez ce que je veux dire, c'est presque le régime de visibilité là qui est en jeu et qui est construit de façon raciste en l'occurrence.
Alors quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que la solidarité peut s'exprimer de tous les côtés? Est-ce que seules les victimes peuvent exprimer une colère? Est-ce qu'elle peut être partagée par ceux qui n'ont pas vécu la même forme d'oppression ou pas?
Moi, je pense que ça dépend. Il y a plusieurs positions politiques. Il y a une position politique qui consiste à dire non, là, qui se focalise sur l'expérience vécue et de dire effectivement, là, maintenant, il n'y a pas de solidarité possible, mais parce que aussi c'est un moment de deuil, c'est un moment de révolte, c'est un moment de lutte. Et puis une autre position politique consiste à dire, en fait, ce qui est en jeu ici, c'est un racisme structurel. Et s'élever contre ce racisme structurel, blanc ou noir, c'est précisément ne jamais considérer le meurtre d'un homme noir aux États-Unis, mais en France, en fait, parlons de la France, comme étant un fait divers. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est pour ça qu'au début, j'évoquais l'idée que cette question de la violence policière, elle me semble au cœur du politique, c'est bien un processus de politisation et de conscientisation menée vous voyez par des familles de victimes, par des associations antiracistes, par des associations noires qui ont montré que si on est capable de considérer de fermer les yeux sur un jeune homme qui se fait tuer par la police pour un simple contrôle d'identité, alors la question, c'est une forme d'acceptation d'un racisme structurel.
Tout à fait, et c'est pour ça que ça concerne la société entière, justement. C'est Exactement. Pour ça que je pose la question de savoir jusqu'où peut aller la solidarité. Est-ce qu'il faut reconduire la stigmatisation raciale d'un côté comme de l'autre en refusant la solidarité de personnes qui elles-mêmes ne sont pas désignées comme victimes? C'est vraiment la question qui se pose en ce moment.
C'est la question qui se pose en ce moment, mais ce que je veux dire, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il n'y a pas de position principielle. Ça se construit politiquement. Dans un contexte, dans un nœud historique, et on a vu des convergences, par exemple, du fait de des violences policières à l'encontre des gilets jaunes qui composaient majoritairement, on va dire, de personnes blanches, les exactions commises au cœur des cortèges ou au moment des mouvements étudiants, etc. On a vu des convergences entre parce que le problème était la police. Avec les comités Vérité et Justice pour Adama, les gilets noirs, les gilets jaunes, les étudiants, etc. Donc, si vous voulez, ça se construit. Il n'y a pas de réponse. Là encore, ça serait. Moi, ma position est de dire, si on s'en tient à l'expérience vécue, on manque des choses. Mais en même temps, il y a une autodétermination des luttes, il y a une nécessité historique, et que chaque solidarité, chaque convergence, elle se joue dans un contexte socio-historique inédit, et que c'est ça, on peut, il n'y a pas de prédiction, enfin, et il n'y a pas d'imposition d'une bonne façon de faire.
Et là, est-ce que vous sentez que vous avez une responsabilité? Cette fois-ci, en tant que philosophe, même si vous n'êtes pas à l'aise avec les étiquettes de philosophe, de militante, et je vous comprends ô combien, mais est-ce que vous sentez que de par votre formation, du rôle que vous jouez à l'université en tant que professeur de philosophie, est-ce que vous sentez investi d'une responsabilité à l'égard de vos étudiants, à l'égard de la société, pour expliquer les choses, exprimer certaines opinions, analyser des situations? Je sais que vous publiez régulièrement des tribunes en Libération, par exemple.
Pas que dans Libération, dans le Bondy Blog.
Je citais Libération, entre autres choses. Ouais, enfin, ouais, voilà, vous exprimez, c'est ça que je voulais dire, dans les médias, publiquement.
Oui. Complètement. Je prends des positions, d'ailleurs, parce que c'est... Je, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis la même personne... que je fasse mon métier de philosophe ou pas, enfin bon, bref. Oui. Mais la question, elle est de deux ordres, en fait. Je ne sais pas si je parlerai de responsabilité, plutôt que d'urgence. Pour moi, c'est une urgence de penser ça. Vous savez, c'est cette question de cette injonction, cette adresse de Virginia Woolf, penser nous devons. Voilà. C'est ça. C'est penser ça, pour moi, c'est fondamental. Et donner des outils pour que ça puisse devenir un objet de pensée, que ça soit légitime de réfléchir sur ces questions, lorsque j'enseigne, par exemple, c'est aussi quelque chose de fondamental pour moi. C'est-à-dire quand, par exemple, j'enseigne la philosophie politique, il n'y a pas de, il n'y a pas de question à exclure parce qu'elle serait trop actuelle, brûlante, militante, ou peu importe. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que, au contraire, plus la matière est brûlante, impure, complexe, et plus il faut construire des outils, trouver des outils pour la pensée. Et après, il y a une dernière chose, c'est que il faut pas sous-estimer le fait, vous parlez de responsabilité, par exemple, à penser ces enjeux, ce contexte, cette histoire, etc. Mais il faut pas sous-estimer qu'il y a quand même, que c'est très difficile de le faire malgré tout au sein de l'université. C'est extrêmement difficile. Il y a une sorte de reproduction sociale, on va dire, dans l'enseignement de la philosophie, qui exclut ou qui marginalise ou qui interdit de penser certaines questions sous peine d'être taxé de ne pas faire de la philosophie, ne pas faire de la philosophie politique, etc. Donc on est quand même aussi dans une... Vous voyez, tout dépend ce qu'on nomme philosophie, en fait, c'est ça que je voulais dire. Soit on a une définition qui peut être très variée et on peut la moduler, etc. Soit on a une définition qui est la définition institutionnelle de la philosophie telle qu'elle est enseignée et telle que des institutions en protègent la délimitation et les frontières. Et là, c'est on pourrait presque dire qu'on est dans une lutte, y compris un rapport de force très dur à l'échelle idéologique, c'est-à-dire de pouvoir faire éclater cette définition très foreclose, très restrictive, très exclusive de ce qui est bon à penser pour la philosophie.
Vous êtes inquiète pour la philosophie aujourd'hui, à l'université, au lycée également, pour l'enseignement de la philosophie plus précisément ?
Je suis extrêmement inquiète pour le lycée, évidemment, de la disparition programmée de la philosophie ou d'un contrôle qui est de plus en plus problématique, je pense, encore une fois, et qui révèle en fait des formes de contrôle idéologique du contenu à enseigner. Et en ce qui concerne l'université, là, si vous voulez, c'est presque d'autres enjeux, parce que il y a évidemment l'enjeu de ce qui est enseigné dans le cadre, par exemple, de la préparation au concours de l'enseignement, du CAPES et de l'agrégation, donc avec des programmes qui sont évidemment définis, et donc là, ce qui délimite de fait, en fait, le programme, entre guillemets, de la philosophie, mais qui de fait que dans des petits départements ou des départements où il y aurait peu d'étudiants, ce qui est enseigné de la philosophie se réduit au programme des concours de l'enseignement. Et ça réduit considérablement en fait ce qu'offre la philosophie. Donc peut-être l'idée d'essayer de trouver en fait je suis très sceptique évidemment vu la façon dont l'université la forme que l'université prend mais je suis très inquiète sur le fait que pour survivre certains tendent à défendre une philosophie extrêmement classique. Et quand je dis classique, c'est vraiment non pas qu'il faudrait pas étudier la philosophie très classique ou les auteurs très classiques, évidemment que non, mais ce que j'essaie de dire, c'est de ne pas restreindre la philosophie à ça et penser que le reste n'est pas philosophie. Mais pour survivre, il faudrait donc rester comme ça sur une philosophie très normative, classique, délimitée, alors qu'au contraire, je crois que pour survivre, la philosophie a besoin de recherches à la fois qui peuvent, enfin sa force d'historicisation par exemple des questions est fondamentale. Donc je ne dis pas faire que de la philosophie contemporaine sur des enjeux contemporains, mais au contraire de pouvoir prendre cette puissance philosophique qui est oui, ce pouvoir d'historicisation, ce pouvoir de construction des questions en dehors des cadres imposés, cette question.
Ce que vous faites dans vos travaux écrits, en tout cas, c'est peut-être à l'université, mais en tout cas, ce que vous faites dans votre travail d'écriture.
J'essaie avec d'autres, évidemment, mais j'ai la chance de le faire dans mon enseignement. J'enseigne dans un lieu où il est possible de faire ça.
Et je rappelle que vous enseignez à Paris 8. Merci beaucoup Elsa Dorlin de nous avoir parlé de votre pratique de la philosophie ce matin.
Merci à vous Adèle.
On mettra en ligne sur le site des chemins de la philosophie la bibliographie que j'ai évoquée et dont on a parlé ce matin, votre compagnie. Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
Et on se quitte avec la voix de Frantz Fanon, une archive du 20 septembre 1956 dans laquelle il analyse l'évolution des formes de racisme, notamment aux États-Unis. C'est une de vos grandes influences, Elsa Dorlin. Et d'ailleurs, je précise que votre ouvrage, Se défendre, a reçu le prix Frantz Fanon de l'Association caribéenne de philosophie en 2018. Frantz Fanon et puis la bande originale du film The Black Panthers de Kendrick Lamar.
Le racisme, vous continuez avec l'Amérique, hante et vicie la culture américaine. Et cette gangrène dialectique est exacerbée par la prise de conscience et la volonté de lutte de millions de Noirs et de Juifs visés par ce racisme. Cette phase passionnelle, irrationnelle, sans justification, présente à l'examen un visage effrayant. La circulation des groupes, la libération, dans certaines parties du monde, d'hommes antérieurement infériorisés, rendent de plus en plus précaire l'équilibre. Assez inattendument, le groupe raciste dénonce l'apparition d'un racisme chez les hommes opprimés. Le primitivisme intellectuel de la période d'exploitation fait place au fanatisme moyenâgeux, voire préhistorique de la période de libération. À un certain moment, on avait pu croire à la disparition du racisme. Cette impression euphorisante, déréelle, était simplement la conséquence de l'évolution des formes d'exploitation. Confrontation ain't nothing new to me. You can bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises all in your conversation. I hate people that feel entitled. Look at me crazy cause I ain't invite you. Oh, you important, you the moral to the story. You endorsing motherfucker, I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you're dealing with. A small percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or I'm winning. Oh my mama, that's the realest shit. Let's talk about love.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Pendant quelques semaines, on a eu beaucoup ce mot à la bouche, affiché sur les murs des immeubles, brandi sur les ronds-points et dans l'espace médiatique. Merci. Merci aux soignants, aux livreurs, aux éboueurs, à tous ceux qui ont continué à travailler pendant la crise et à permettre à d'autres de rester chez eux dans de bonnes conditions. Quelques semaines plus tard, que reste-t-il pourtant de cette reconnaissance, de ces merci clamés pendant 2 mois? La gratitude d'un merci aurait-elle quelque chose d'ingrat?
Il est 21h01 et c'est l'heure de l'hommage aux soignants. Écoutez, dans plusieurs villes de France, Paris 17e, Pégomas, Metz, Lyon, Châlons-en-Champagne, Paris 11e, tous à la maison et merci à tous ceux qui sont au front.
Ce week-end, j'ai eu la chance de sortir de Paris. Les quelques kilomètres parcourus en voiture m'ont semblé être un flashback en travelling de ces mois passés. Je me suis rappelée de la dernière fois où j'avais pris cette route, bien avant le confinement, à une époque où l'épidémie n'existait presque pas. Puis j'ai vu les différents signes de la crise. Les messages de prévention Covid sur l'autoroute, les banderoles des supermarchés affichant leurs horaires spéciaux, celles annonçant le retour à la normale, et puis, de ci de là, sur des maisons, des immeubles ou des ronds-points, des panneaux avec un merci monumental. De ces panneaux, hélas, il ne reste souvent plus grand-chose. Le vent, la pluie et surtout le temps en ont décoloré la plupart et même déchiré certains. Que va-t-il alors rester de tous ces merci qu'on a eus pour tous ceux qui ont continué à travailler, de ces moments de solidarité affichés, ritualisés, de cette reconnaissance exhibée, de ces fameux applaudissements à 20h qui ont depuis longtemps déjà laissé la place à la rumeur habituelle de l'espace public, ou pire, à un ou deux claps un peu pathétiques perdus dans leur solitude et à contre-temps. Était-ce là des postures ou les élans du cœur sont-ils forcément éphémères? Au fond, peu importe, car face à ces panneaux en lambeaux, le résultat reste le même et la question se pose. Les merci seraient-ils des unions de façade, nécessaires et capables de nous rassembler, sans jamais pourtant vraiment nous lier?
Je suis très ému. Je remercie Claude Berry, comme tout le monde. Franchement, je croyais m'emmerder en venant là. Et puis je me suis vachement marré, hein, quand j'ai pas dormi. Parce que j'étais à côté de Gainsbourg qui arrête pas de déconner.
Pour avoir à la maison un enfant qui apprend à parler, dire merci n'a rien de naturel, d'automatique ou de spontané. C'est au contraire un long apprentissage qui se passe souvent d'explications. On dit merci, c'est comme ça. Pourtant, loin d'être seulement une formule de politesse qui lisse les rapports entre les uns et les autres, un seul usage factice, hypocrite ou gêné, dire merci a toujours quelque chose de sincère, même quand on le prononce sans y penser. On remercie toujours sincèrement son boulanger pour son pain, comme on remercie ses parents ou ses amis d'être ce qu'ils sont. Le merci a donc ce paradoxe, parce qu'il devient une seconde nature d'être tout à la fois sincère mais anecdotique, nécessaire mais accessoire, adressé à quelqu'un mais indifférent dans sa forme. On aura beau essayer de faire les remerciements les plus originaux, comme pour toutes ces remises de prix, un merci restera un merci et tombera dans l'oubli. Voilà donc le plus grand des paradoxes dans ce dire merci, sa dimension insignifiante. Ce qui est dit avec sincérité, avec nécessité, ce merci qui singularise la personne à qui il est adressé ne dure pas. Il se perd, il ne s'installe pas à l'image de ses panneaux en lambeaux. Il s'étiole, faisant exister et tenir une relation à un seul fil. Mais comment, et c'est tout le problème, faire exister une relation sans pour autant lui donner une consistance, sans lui assurer une pérennité ni la garantir? Et si en disant merci, en ouvrant donc une relation à l'autre sans la faire durer, on produisait en fait le contraire de la gratitude ou de la reconnaissance, comme de la frustration ou du déni? Et si en fait, on remerciait comme on congédie quelqu'un?
Merci, merci, je le dis. Oui, merci, beaucoup. Merci, je ne sais qui, mais merci pour tout.
Au fond, l'enjeu du merci est là, le faire durer, en tirer quelque chose, en faire la fondation d'une véritable relation. Mais est-ce possible? Peut-on fonder autant de véritables relations qu'on dit merci? Et surtout, ça veut dire quoi une véritable relation? De quoi est-elle faite? Si la gratitude a son concept, celui de reconnaissance en philosophie a longuement été développé par Hegel, Paul Ricoeur et encore aujourd'hui par Axel Honneth. Chacun d'entre eux y a vu la clé des relations, l'explication, le cœur de ce qui nous lie les uns aux autres. Mais à la lumière de ces merci en berne, qu'on questionne la reconnaissance ou la gratitude ou cette formule de politesse, il reste quand même ce mystère, qu'est-ce qu'un lien véritable? Existe-t-il et est-il durable?
Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et un grand, un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, grâce à qui une émission par jour vous est proposée, chers auditeurs. Cette équipe est composée de Clara de Giovanni, Manon de la Selle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. C'est Thomas Beau qui a réalisé pour vous cette émission. La prise de son aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson. On se retrouve demain pour la suite de cette série de professions philosophes. Demain, je serai en compagnie de la philosophe Céline Spector. D'ici là, sachez que vous pouvez télécharger, podcaster cette émission pour l'écouter au moment de la journée que vous choisirez et que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On est toujours très heureux de lire vos remarques et vos commentaires et pourquoi pas de répondre à vos questions. On se retrouve demain à 10h, donc d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.